Europe 1, 17h, 18h, clap.
Pas 7 heures d'opéra, c'est parce que la news de la semaine après le cinéma, Cédric Clapiche, le célèbre réalisateur évidemment de l'Auberge espagnole, du Péril jeune ou encore plus récemment de Encore, va monter son premier opéra en reprenant ce chef-d'œuvre de Mozart, La Flûte enchantée. Ça sera au Théâtre des Champs-Élysées en novembre 2023. Alors c'est vrai qu'on sait, hein, il l'a beaucoup dit dans les interviews lors de la sortie d'Encore, que la danse c'est l'une de ses passions. Son dernier film donc était une vraie déclaration d'amour à cet univers de la danse classique. Forcément, ce projet ne surprend personne, hein, Mehdi, Sophie.
Il ne surprend personne, ce projet, d'autant plus qu'il a effectivement réalisé plusieurs documentaires sur la danse classique et contemporaine et que c'est un habitué des opéras au sens large. Et bon, La Flûte enchantée, c'est quand même un gros challenge. C'est quand même un opéra assez incroyable de 3 heures en 2 actes avec ce prince Tamino qui est vraiment démentiel. Mais je pense que Clapiche va parfaitement relever le niveau, d'autant que je tiens à le dire qu'il n'est pas tout seul sur ce projet. Il est avec François-Xavier Roth, qui est un des plus grands chefs d'orchestre actuels.
Oui, juste pour ajouter une passion pour la musique, quand on regarde ses BO, ne serait-ce que celle de l'Auberge espagnole, on sent que, comme Cameron Crowe, pour ses films, lui, il les choisit avec passion. Et si je peux me permettre, Laurie, une petite pensée pour Catherine Froh dans Marguerite. Oui. Parce que ce petit air m'a rappelé Marguerite. Voilà.
C'est vrai aussi. Bon, et pour Cédric Clapiche, il n'est jamais trop tard pour une première. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je rappelle que Encore, c'était l'un des gros succès de cette année, 10 nominations au César.
Connu, ça.
Oui, je n'avais pas envie de m'arrêter, excusez-moi. De l'opéra au western, il n'y a qu'un pas. Sublime musique, évidemment, d'Ennio Morricone. On se met tout de suite dans l'ambiance des westerns. Pourquoi ? Non, on ne va pas vous parler du Bon, la Brute et le Truand. Mais, est-ce à votre avis,
du moyen-métrage de Pedro Almodovar.
Exactement, intitulé Strange Way of Life. Le réalisateur espagnol a réalisé un western queer de 30 minutes dans lequel Ethan Hawke et Pedro Pascal sont en couple. Attention, aïe aïe aïe, un casting qui donne vraiment envie. Non, franchement, on adore ce duo.
Ah bah, Almodovar qui fait son Brokeback Mountain avec Ethan Hawke et Pedro Pascal qui est l'acteur du moment. En fait, il est partout, il est sur toutes les trends, sur TikTok, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, avec le succès notamment de The Last of Us. Donc oui,
et
moi
aussi
je
Mandalorian.
Exactement, et j'ai très hâte de voir ça, voilà.
Ah, ça va être très sexy. Ils se retrouvent 25 ans après s'être aimés dans au fin fond du désert. Il y a 25 ans, ils étaient tueurs à gages. Enfin, le pitch fait très 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 envie tout de même.
Alors, c'est effectivement un peu sa réponse à Brokeback Mountain, hein, cette romance culte entre Jake Gyllenhaal et le regretté...
Ouais. Ça y est, je pleure. Ça y est, Laurie, je pleure. Heath Ledger.
Et le regretté Heath Ledger, qu'on aimait beaucoup. À l'époque, il avait refusé de réaliser le film. Et donc, finalement, c'est Ang Lee qui a récupéré le projet. Et là, voilà sa réponse. Mais alors, attention. Hein. Alors, tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Pour le moment, le Festival de Cannes n'a rien confirmé. Mais effectivement, ce moyen-métrage pourrait être présenté en ouverture de la 76e édition du Festival de Cannes. Ce n'est pas confirmé officiellement et ce serait assez rare d'avoir donc un moyen-métrage en ouverture. Et il pourrait être suivi d'un court-métrage de Jean-Luc Godard pour rendre hommage à Jean-Luc Godard.
Alors, ça me paraîtrait complètement logique que Jean-Luc Godard soit à l'honneur cette année du Festival de Cannes. Ensuite, ce moyen-métrage a été réalisé en collaboration avec Saint-Laurent qui avait déjà projeté un film de Gaspard Noé, hein, Lux Eterna, il y a quelques saisons.
Enfin, moi, je ne suis pas très fan de Godard, donc ça ne change rien à ma vie, mais en tout cas, j'aime bien...
C'est vrai que Mehdi Omaïs n'aime particulièrement pas Godard, il aime bien le faire savoir, ce qui est très audacieux.
Mais oui, le Festival de Cannes adore Jean-Luc Godard.
Oui, bah, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est les supputations avant
alors,
le Festival de Cannes.
Bah,
et donc, on est là, on se demande ce qui va y être, ce qui ne va pas être et tout, et ça fait partie du jeu. Et même le Festival de Cannes aime ça quand nous, on suppute.
C'est pour ça qu'on vous donne les rumeurs telles qu'on les a. Après, ouais, on vous informera de la suite des événements. Pour terminer notre petit tour d'horizon, hein, des news cinéma de la semaine. Un point sur le printemps du cinéma, on vous en a parlé samedi dernier, ça s'est déroulé donc de dimanche à mardi. Eh bien les chiffres sont bons, ça nous fait vraiment plaisir, c'est très encourageant. 2 350 000 tickets vendus à 5 € pendant ces 3 jours, ça veut dire 10% de mieux que l'année dernière et on voit donc petit à petit que la fréquentation remonte dans les salles de cinéma. Ça prouve que l'offre est riche et que les gens ont envie de retourner dans les salles.
C'est, ouais, enfin, je sais pas, c'est extatique pour moi. Je trouve que tous les signaux sont au vert. Le cinéma se porte bien, ses poumons sont bien gonflés. Babylone, 1,5 million d'entrées. Spielberg, 829 000 au moment où je parle, mais peut-être le million bientôt. Des films qui n'ont pas marché ailleurs, mais qui marchent en France. Preuve que la France est une terre de cinéma et de passion.
Et on voulait quand même souligner.
Je ne peux plus rien dire derrière cette exaltation de Mediumaïs, mais bien sûr, je suis entièrement d'accord.
Moi, j'aime beaucoup quand vous vous emballez comme
tous
ça.
Tous ces chiffres-là, ça donne le tournis.
Je continue avec des chiffres.
En fait.
Je sais,
on a bien compris. Oui.
On va le surnommer chiffre d'ailleurs, comme dans James Bond. Non, mais on voulait vous signaler la nouvelle performance d'Alibi.com 2 en 7e semaine grâce au printemps du cinéma qui a fait rire plus de 300 000 spectateurs supplémentaires. Conséquence, le film est devenu avec 3 870 000 entrées. Le plus gros succès de Philippe Lachaud et de la bande à Fifi devant le premier Alibi.com en 2017 qui avait rassemblé 3 580 000 personnes. Et c'est le deuxième plus gros succès de l'histoire de son distributeur Studio Canal. Alors maintenant, la question, monsieur Chiffre, va-t-il dépasser les 4 millions de spectateurs ?
Franchement,
ah bah oui.
Ah bah
moi
pense
je dis
que oui.
Oui, pourtant je suis pas Madame Chiffre.
Je suis d'accord avec
envie.
Madame Chiffre.
Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour le cinéma français.
En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage.
Ah merde. Que ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père.
Fiston ! C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère.
Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne.
Voilà un petit extrait d'Alibi.com. On ne boude pas notre plaisir à le réécouter. Gérard Jugnot, Ariel Dombal, Didier Bourdon, Nathalie Baye, évidemment toute la bande à Fifi, plus des guests. Bref, un film qu'on aime beaucoup. On part maintenant direction Los Angeles pour le JT d'Hollywood de notre Didier Allouche.
Europe 1, clap. Le JT d'Hollywood, Didier Allouche.
Salut Laurie, salut à tous. Cette semaine, je vous emmène au Texas. Hi-ha ! Bon, ok, j'arrête. C'est à Austin que s'est déroulé jusqu'à dimanche dernier le festival South by Southwest, un événement multiculturel surtout connu pour ses concerts pop, ses expos décalés et ses fêtes de ouf qui durent jusqu'au petit matin. Bref, de très bonnes raisons d'aller y faire un tour, à laquelle on peut maintenant y ajouter une excuse boulot puisque South by Southwest devient un rendez-vous cinéma de plus en plus important. L'an dernier, c'est là que les Daniels ont présenté en avant-première mondiale leur Everything, Everywhere, All at Once avant leur triomphe récent aux Oscars. Du coup, cette année, tout le monde voulait y aller. De l'indépendant en version comedy raunchy avec Joyride, aux grosses productions comme John Wick 4, en passant par les films avec stars à la manette comme le nouveau Ben Affleck, Air, ou les films d'horreur très attendus comme le nouveau Evil Dead. Tout le monde voulait son label South by Southwest. Et les studios se servent aussi du festival comme rampe de lancement de leurs énormes machines. Un film comme Donjons et Dragons, énorme film de studio, s'adresse directement au public d'Austin, un public très porté sur la pop culture un poil geek, puisque le film est basé sur un jeu de rôle auquel tous ceux qui étaient dans la salle d'Austin ont au moins joué une fois dans leur vie. Le public est donc bienveillant. À Austin, le terrain est conquis d'avance. La projection de Donjons et Dragons fut un triomphe fondateur de bouche à oreille plus que favorable. South by Southwest est donc au-delà du simple festival de cinéma, c'est presque devenu le premier festival influenceur. Pas étonnant donc que tout Hollywood s'y retrouve.
Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations passionnantes. Ne bougez pas dans un instant, c'est Élodie Bouchet qui sera en direct sur Europe 1 pour parler du film Je verrai toujours vos visages qu'on adore. A tout de suite sur Europe 1.